belle ville à la belle de mai, en passant par quatre chemins, nous nous penchons cette semaine sur l'économie des quartiers populaires. Avec la révolution industrielle, les abords de la ville se transforment, les usines quittent les centres-villes, tandis que les travailleurs affluent des campagnes, les faubourgs si peu peuplés s'urbanisent, et avec cette nouvelle classe sociale émergent de nouvelles revendications. Il était une fois les cités ouvrières, c'est jusqu'à 15h sur France Culture. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour ce premier épisode de notre série sur les quartiers populaires, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Bélanger, historien, chercheur au CNRS, directeur du Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains de l'Université Paris 1, et Jean-Marc Stébé, sociologue, professeur d'études urbaines à l'Université de Lorraine. Une émission bâtie à main nue par Thibaut Moméja, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Diane Devancet et Anna Kubiak. Pauvre banlieue parisienne, paillasson devant la ville où chacun s'essuie les pieds, crache un bon coup, passe. Qui songe à elle ? Personne. Abrutie d'usines, gavée d'épandages, dépecée, en loque, ce n'est plus qu'une terre sans âme, un camp de travail maudit où le sourire est inutile, la peine perdue terne la souffrance. Paris, le cœur de la France, quelle chanson, quelle publicité ! La banlieue tout autour qui crève. Calvaire à plat permanent, de faim, de travail et sous bombe. Qui s'en soucie ? Personne, bien sûr. Elle est vilaine et voilà tout. Les dernières années n'ont pas arrangé les choses, on s'en doute. Banlieue de hargne, toujours vaguement mijotante, d'une espèce de révolution que personne ne pousse ni n'achève. Malade à mourir toujours et ne mourant pas. La banlieue souffre et pas qu'un peu. Expie 100 fois le crime de rien. Jamais tant ne furent plus vides. Beau poète celui qui s'enchante de Bretagne, de Corse, d'Angoumois, d'Hespéride. La belle affaire. Chanter Beson, voilà l'épreuve. Bonjour Emmanuel Bélanger et Jean-Marc Stébé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Chanter Beson, voilà l'épreuve, cette sentence finale de Louis-Ferdinand Céline dans ce texte de 1943. En dit long, Emmanuel Bélanger, sur les représentations des banlieues populaires déjà à cette époque.
Oui, alors nous sommes en 1943, vous venez de le souligner, un moment précis de l'histoire contemporaine, hein, le régime de Vichy, qui est un temps incontestablement de haine de la ville, et singulièrement de la ville populaire, de la ville des quartiers et des banlieues populaires, accusés de tous les maux. Et Ferdinand Céline, c'est en quelque sorte le chantre d'une représentation désenchantée de ces territoires suburbains, de ces quartiers populaires, des quartiers qui accueillent les damnés de la terre, qui accueillent des générations et des générations de déracinés, de migrants. Donc pour Ferdinand Céline, la banlieue, et singulièrement Beson, elle est vilaine. Pour d'autres, au contraire, elle a été une terre d'espérance, un laboratoire d'expérience et une quête de bonheur.
Ce terme de banlieue, il est aujourd'hui très chargé symboliquement, alors qu'au sens étymologique, Jean-Marc Stébé, ce sont simplement les territoires périphériques qui sont sous l'autorité de la ville-centre. Comment s'est opéré ce glissement ?
Alors, effectivement, au départ, pendant toute la période du Moyen-Âge, la banlieue a été une réalité juridictionnelle. Elle était une zone non adéficandi, on ne pouvait pas construire, parce qu'on voulait surveiller autour de la ville les ennemis éventuels. Et cette zone fait une lieue à peu près, ça fait 4 km, 440 exactement, c'est une unité de mesure ancienne, et il y a une autorité en même temps que juridique, il y a une autorité, disons, administrative, et on a autorité sur le banc, le seigneur, la municipalité, l'abbé, et le terme banlieue vient de l'association de ces deux termes, banc, c'est-à-dire à l'extérieur, au banc de la société, vous comprenez, hein, il y a plus, c'est un terme polysémique, hein, banc, bien sûr, et, donc, mais là, c'est la signification à l'extérieur et du lieu. Et voilà un petit peu l'étymologie, disons, l'origine du terme banlieue.
Et c'est le même sens que recouvre le terme de faubourg, Jean-Marc?
Alors, non, les faubourgs, justement, comme c'était une zone non adificandi, le long des voies navigables, le long des routes, une activité économique s'est mis en place, et notamment des marchands qui se sont installés le long de ces voies. Et ça s'appelait des forborgs en vieux français, des faux, F-A-U-X, trait d'union, bourg, des faux bourgs qui n'étaient pas des vrais bourgs. Donc il y a eu plusieurs édits qui ont interdit la construction dans ce territoire, mais rien n'y a fait. Et au fur et à mesure du temps, les autorités municipales ont agrandi, ont déplacé les forteresses qui se trouvaient autour des villes.
C'est important de s'arrêter sur ces termes, Emmanuel Bélanger, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de quartiers populaires, parce que on voit bien qu'évidemment on ne peut pas réduire ces quartiers populaires aux banlieues, et en même temps, est-ce que ce terme de classe populaire n'est pas récent? Est-ce qu'on ne parlait pas plutôt dans les sciences sociales auparavant de quartiers ouvriers? Là encore, on peut parler d'un glissement sémantique cette fois, Emmanuel Bélanger.
Alors, la ville populaire, et vous avez eu raison d'appeler votre émission, en tout cas ce moment, ce titre d'émission, les banlieues, parce qu'elles se déclinent, au pluriel. Elles ont tout un rapport singulier avec la centralité parisienne, souvent un rapport de domination, mais pas uniquement. Et donc, ce S de banlieue désigne à la fois cette histoire de la villégiature, donc de la formation de ces banlieues résidentielles, des maisons à l'origine, où l'on échappait au miasme de la ville, de la grande ville, pour se ressourcer en campagne, et qui vont progressivement devenir des banlieues résidentielles, et plus tard, des banlieues à l'entre-soi bourgeois bien plus prononcées. Vous avez des banlieues également qui ont toujours été des banlieues nourricières, qui remplissait une fonction essentielle, hein, pour cette ville devenue agglomération et bientôt métropole, la fonction finalement de ravitailler la ville-centre. Donc ces banlieues nourricières, ce sont les terres maraîchères, ce sont des banlieues vertes qui ont longtemps marqué le paysage de la banlieue parisienne et d'autres banlieues de grandes capitales européennes. Et vous avez enfin, bien sûr, les banlieues nées de l'entrée dans l'âge de la ville industrielle, qui va donner forme et réalité sociale à ces quartiers et ces villes. Ces villes populaires que dénonçait Céline au début de votre émission.
Et alors, en effet, avant le 19e siècle, Jean-Marc Stébé, les abords des villes étaient plutôt investis par les familles les plus aisées qui en faisaient leur lieu de villégiature. Et ça s'est poursuivi au moins pendant la première moitié du 19e siècle, à mesure que les centres-villes étaient de plus en plus denses et encombrés sous l'effet de la révolution industrielle.
Alors, effectivement, sous l'effet de la révolution industrielle, mais juste un peu avant, on a eu un engouement assez prononcé pour la banlieue et la banlieue verte, comme disait mon collègue, notamment à la suite de la Révolution, où il y a eu un certain nombre de terrains expropriés au clergé, etc., à la noblesse. Et là, on a vu fleurir autour de Paris un certain nombre de relotissements, disons de redécoupage d'un certain nombre de patrimoines et de fonciers assez importants qui appartenaient à la noblesse et au clergé. Et notamment Chantilly, des zones autour de Paris, Saint-Cloud, Marnes-la-Coquette et autres, qui ont été redécoupées. Et les personnes les plus aisées pouvaient avoir une maison, et on disait à cette époque que celles qui peuvent rouler carrosse, qui avaient les moyens économiques pour faire le trajet entre leur lieu d'habitation, disons la banlieue, et leur lieu de travail qui se trouvait dans la centralité. Donc là, on a déjà une première période. Et effectivement, vous avez raison de souligner que au moment de la révolution industrielle, effectivement, là, les familles les plus aisées, on leur disait d'aller se mettre au vert, hein, après une couche, etc.
Car voilà. À cette époque, le centre de Paris se densifie. La classe ouvrière qui commence à se former vit dans des logements, dans le centre souvent insalubres. C'est ce qu'écrit le médecin Louis-René Villermé dans son tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie en 1840. Écoutez.
On conçoit que pour éviter de parcourir deux fois chaque jour un chemin aussi long, les ouvriers s'entassent, si l'on peut parler ainsi, dans des chambres ou petites pièces, malsaines, mais situées à proximité de leur travail. J'ai vu de ces misérables logements, où deux familles couchaient chacune dans un coin, sur de la paille jetée sur le carreau et retenue par deux planches. Des lambeaux de couverture et souvent une pièce de matelas de plumes d'une saleté dégoûtante, voilà tout ce qui recouvrait cette paille. Du reste, un mauvais et unique grabat pour toute la famille. Un petit poêle qui sert à la cuisine comme au chauffage. Une caisse ou grande boîte en guise d'armoire. Une table, deux ou trois chaises. Un banc, quelques poteries. Composent communément tout le mobilier qui garnit la chambre des ouvriers, employés dans les filatures et les tissages de la même ville.
Par Mathilde Tonfourcade de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Face à la promiscuité et l'insalubrité de ces logements, une partie des ouvriers va commencer à s'éloigner du centre pour rejoindre les périphéries à mesure que l'industrie et les manufactures se déplacent, elles aussi, aux portes de Paris et au-delà. Emmanuel Bélanger.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais en même temps, je rappelle souvent à nos étudiants que Paris restait très longtemps une ville populaire. Et ces arrondissements à deux chiffres, hein, ceux de la petite banlieue annexée en 1859, au temps du préfet Haussmann, sous le Second Empire, sont restés des territoires au peuplement marqués par cette histoire de la ville industrielle et ouvrière. Et en 1977, c'est une date qui compte dans l'histoire de Paris, puisque elle marque l'avènement du premier maire Jacques Chirac, élu au suffrage universel direct. De peu, il est élu. Et vous aviez encore un Paris rouge, justement, dans les arrondissements annexés, les arrondissements populaires périphériques de Paris, qui avaient manqué de peu, en quelque sorte, une alternance à gauche, celle-ci, incarnée par un élu communiste. Pour autant, vous avez raison, bien sûr, cette ville capitale, cette ville monde, parce qu'elle est capitale d'empire, elle va aussi donner lieu, en quelque sorte, à un très long débordement de ses franges, sous l'effet à la fois d'une densification de son territoire intramuros, agrandi en 1859, nous l'avons dit, mais également sous l'effet finalement de l'étalement urbain, d'un étalement urbain aux portes de Paris, au-delà des frontières de l'octroi, et qui va aussi être marqué par l'avènement de cités emblématiques de cette histoire ouvrière.
Ce sont notamment des populations chassées du Paris intramuros à la suite des grands travaux d'Haussmann qui vont se déplacer dans cette zone située entre les banlieues encore peu urbanisées et la capitale, sur cette bande de terrain qu'on a évoquée. Jean-Marc Stébé, qui jouxte les fortifications édifiées à partir de 1841.
Oui, alors effectivement, on voit qu'un certain nombre de populations vont trouver refuge, ce qu'on appelle aujourd'hui les sans-abri, vont trouver refuge sur cette zone des fortifications parisiennes qui vont être, disons, après 1914, désaffectées et vendues, disons, à la ville de Paris. Hein, donc c'est quand même 30 kilomètres de circonférence, de périmètre, hein, sur à peu près moyenne 400 mètres de large. Et là, on va avoir toute une frange de population, disons, c'est pas la population ouvrière, c'est la population des sans-abri qui va être chassée à cette barrière. Les ouvriers ne vont pas être chassés, ils vont être obligés de suivre un certain nombre d'usines, de manufactures, d'entreprises qui sont obligées, pour des raisons d'hygiène, parce qu'on commence à voir les premiers premières dispositions sur l'hygiène, disons, de la Seine, de l'air, etc. Et donc, les usines se déplacent à la périphérie, donc se déplacent en banlieue. Et les ouvriers vont suivre une partie, comme vient de dire mon collègue, pas tous, vont suivre pour avoir moins de trajets, hein, pour aller en Seine-et-Marne et autres, donc ce qu'on connaît comme territoire, avant c'était la Seine, mais aujourd'hui comme département.
Mais c'est cette ceinture noire de la misère sur les fortifications autour de Paris qui forge justement cet imaginaire des banlieues dangereuses, Jean-Marc Sébé.
Oui, elle va se forger surtout entre les deux guerres, hein, ça va être surtout massif, hein, cette ceinture noire. On n'ose pas passer cette ceinture, on passe par les portes, mais tout un imaginaire sur les viols, sur par les personnes qui s'y trouvent.
Parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc pas de lumière.
Et voilà, et puis dans les glacis, etc., dans les sous-sols des forteresses, bien sûr, ils trouvent un abri, et là, tout un certain nombre de mythes et de fantasmes vont se constituer pendant cette période d'entre les deux guerres.
Du côté des classes ouvrières qui se déplacent en suivant les usines qui vont en périphérie, ces classes populaires ont certes plus d'espace dans les faubourgs de la ville, Emmanuel Bélanger, mais les habitats restent encore très précaires.
Oui, tout à fait, mais il faut vraiment s'imaginer ce Paris de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, ce Paris devenu agglomération et métropole, que l'on appelle dès le début du 20e siècle le Grand Paris, et qui est une métropole qui concentre la moitié de la croissance urbaine française. Ces vagues successives de migrants que l'on a associés à l'exode rural vont, pour plus de la moitié d'entre eux, élire domicile en banlieue parisienne, dans le Paris populaire et surtout bien sûr en banlieue parisienne où en effet on assiste à une densification des réseaux de mobilité, à une concentration du tissu industriel et également et surtout à l'accès à un logement qui va prendre des formes tout à fait nouvelles comme les lotissements que vous venez d'évoquer et en particulier ce qu'on appellera les lotissements défectueux. Mais si vous permettez, j'aimerais bien ajouter que très tôt, dans ce qu'on appelle les banlieues populaires, émergent également des sentiments d'appartenance, des identités extrêmement fortes. Et pourquoi des identités fortes? D'abord parce que elles ont vécu la relégation sociale, hein, celle de la plupart de ses habitants, mais aussi parce que elles entretiennent, vous pouvez l'imaginer, un rapport assez conflictuel avec cette capitale ombrageuse, cette capitale qui essuyait ses pieds en quelque sorte sur le territoire de la banlieue, qui déversait ses eaux usées, qui construisait ses cimetières extramuros qu'elle ne voulait plus sur son territoire, et toutes ces commodités urbaines en quelque sorte qui servaient l'intérêt des Parisiens au détriment de ceux des banlieusards.
Alors que les conditions de vie, encore une fois, dans ces lotissements ouvriers en banlieue parisienne étaient assez difficiles. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Emmanuel Bélanger?
Bien sûr, c'était à la fois la misère sociale, c'était à la fois les maladies sociales, la tuberculose liée à cette promiscuité que vous avez évoquée, qu'on a évoquée, mais c'est aussi le lieu, le terreau d'une socialisation, d'une acculturation politique qui va incontestablement aussi marquer l'histoire de la France contemporaine. On y reviendra peut-être,
bien sûr,
avec l'émergence du socialisme municipal et plus tard du communisme municipal.
On va bien sûr y venir, mais il faut préciser d'abord qu'il n'y a pas que les banlieues populaires qui se forment en cette fin du 19e siècle. Il y a des villes ouvrières qui voient le jour, comme Mulhouse, où s'est également rendu Villermé. Frappé des conséquences fâcheuses qui résultent à Mulhouse pour un nombre considérable d'ouvriers, de la manière dont ils sont logés et surtout du rapprochement dans une même pièce de plusieurs familles, très souvent étrangères l'une à l'autre, le maire actuel de cette ville, M. André Cochelin, a fait bâtir pour 36 ménages d'ouvriers de ses ateliers de construction des logements où chacun a deux chambres, une petite cuisine, un grenier et une cave pour 12 à 13 francs par mois, c'est-à-dire pour moins de la moitié du loyer qu'ils payeraient ailleurs. En outre, et sans augmentation de prix, à chaque logement est attaché un jardin pour y cultiver une partie des légumes nécessaires au ménage et surtout pour habituer l'ouvrier à y passer le temps qu'il donnerait au cabaret. Mais pour jouir de ces avantages, il faut entretenir par ses propres mains son jardin, envoyer ses enfants à l'école, s'abstenir de contracter une dette quelconque et, chaque semaine, faire un dépôt à la caisse d'épargne et payer 15 centimes à la caisse des malades de l'établissement. Cette dernière condition donne droit à 30 sous par jour aux visites du médecin et à la fourniture des remèdes lorsqu'on est malade.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Nous parlons de l'histoire économique des quartiers populaires en compagnie des historiens Jean-Marc Stébé et Emmanuel Bélanger. Que vous inspire cette initiative d'André Koechlin, qui est maire mais qui est aussi l'un des plus grands industriels alsaciens de l'époque, cette initiative Jean-Marc Stébé en faveur du logement des ouvriers?
Effectivement, à cette époque, à peu près à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on a eu énormément d'initiatives de la part d'un patronat qu'on a appelé patronat paternaliste, proche de ses ouvriers, essayant de les guider dans la meilleure voie pour éviter qu'ils aillent se dépraver dans les estaminets et aller voir les filles de petite vertu. Ça, c'était un peu l'objectif du patronat. Et on a donc à Mulhouse, la société Dollfuss, Japy, mais du côté du Creusot, les Schneid, en Lorraine, de Vindel, etc. On pourra en citer beaucoup, de cités ouvrières qui étaient construites proche des entreprises pour éviter justement les déplacements longs, pour qu'ils arrivent le matin en forme et non pas comme auparavant où ils étaient obligés de faire plusieurs kilomètres à pied ou pas en bicyclette, mais c'est plutôt à pied à cette époque. Que par tous les temps. Et donc là, on va construire des cités ouvrières proches des entreprises. Notamment la société Meunier, par exemple. Le chocolat Meunier à Noisiel, près de Marne-la-Vallée. Nous avons une cité ouvrière, qui est encore aujourd'hui que l'on peut visiter, de maisons individuelles. Le débat qu'il y avait auprès du patronat et auprès des hommes politiques à l'époque, c'était est-ce que l'on construit des logements individuels, donc des maisons individuelles avec son petit jardin, etc., pour cultiver sa terre, comme on avait à l'époque tendance à dire, ou alors est-ce qu'on va construire des logements dans des immeubles collectifs? Ça, on a deux options philosophiques et politiques. Celle du logement collectif, on va fomenter une révolution. Voilà, là, on a plutôt tendance à penser que c'est du côté des socialistes et à gauche, et du côté à droite, on a tendance à penser que c'est plutôt les maisons individuelles. En fait, mon collègue le dira certainement mieux que moi, historien, mais c'est certainement pas aussi net que cela, le clivage entre la droite et la gauche, parce que la gauche a été un fervent défenseur du logement individuel, de la maison individuelle.
Emmanuel Bélanger.
Oui, non, je partage tout ce qui a pu être dit sur ces premières expériences de logement ouvrier qui répondaient à un enjeu fondamental pour ce capitalisme urbain, celui de fixer une population, celui de la stabiliser, de la fidéliser également, et surtout de la contrôler. Mmh. De la contrôler face à cette nouvelle menace rouge qui se dessinait, celle du grand soir et des révolutions socialistes. Et donc l'enjeu majeur pour ces réformateurs, c'est pacifier ces territoires ouvriers et populaires. Et c'est tout, je dirais, l'œuvre de ce qu'on a pu appeler cette nébuleuse réformatrice. Je pense aux travaux de Christian Topalov, par exemple, qui mettait bien en avant, finalement, comment des élites municipales, un patronat bienfaiteur ou bienveillant, des ingénieurs, des hygiénistes, pensaient en quelque sorte la cause ouvrière et cherchaient en quelque sorte à répondre au mot MAUX de la civilisation urbaine.
Mais ces créations de logements sociaux par le patronat ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande. Il y a des maisons, des petits immeubles de rapport qui sont dans le même temps le fait d'une multitude de petits propriétaires privés. Sauf que, encore une fois, la demande est considérable, Jean-Marc Stébé.
Oui, la demande est considérable et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, les les ouvriers et les personnes continuent à vivre dans des conditions d'hygiène à la fin du 19e siècle extrêmement déplorables, avec une promiscuité, vivant sous les combles, dans les caves, etc. Et c'est extrêmement, dramatique. Il y a donc des initiatives privées, bien sûr, et l'État, tout à la fin du 19e siècle, commence à, au niveau de l'Assemblée, il y a un débat très important, et les premiers logements sociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les HLM, les habitations à loyer modéré, qu'on a appelé au début des habitations bon marché, sont créés en 1894. Siegfried, un député qui va être à l'initiative de cette loi.
On va venir à cette histoire quand l'État commence à mettre en place une véritable politique du logement. On en parle juste après ça.
Prolo ordinaire, peuple de Paris, rouge-gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistrots et bougnats, et marché couvert, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre, à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard, autour de son cou, rouge sa mémoire, à jamais debout. Rouge-gorge chante le temps des cerises dans les rues vivantes lorsqu'un jour arrive le temps des noyaux et des bulldozers et des vrais salauds en costume clair. Quelques sous-ministres attachés caisse et mines sinistres, l'âme versaillaise décrète trop vieux tout ce quartier-là. Il foutra le feu si le vieux s'en va pas. Raser la maison, détruit l'atelier, des cages en béton les ont remplacées. Adieu réverbères, ampoules au plafond, bonjour la lumière des tristes néons. Chasser les prolos et chasser la vie, parkings et bureaux ont bouffé Paris. Les petites gens sont les gens sérieux, iront gentiment peupler les banlieues.
Vous écoutez Rouge Gorge de Renaud sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous retraçons l'histoire économique des quartiers populaires avec le sociologue Jean-Marc Stébé et l'historien Emmanuel Bélanger. À la réalisation aujourd'hui, c'est Somaya Dabèche. À la technique, Marie-Claire Oumabadi.
Chante aussi Paname que les assassins ont livré aux flammes sans brûler leurs mains. Chante la mémoire que Douaneau préserve de Paris le soir d'avant qu'elle crève. Chante la bâtarde Paris la soumise que Douaneau regarde et qui agonise.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, Jean-Marc Thébé et Emmanuel Bélanger, les usines et les classes ouvrières ont commencé à rejoindre les faubourgs de la ville. Mais c'est seulement à la toute fin du siècle, on commençait à en parler avant d'entendre Renaud, que l'État engage une véritable politique de la ville. Expliquez-nous peut-être, Jean-Marc Thébé, cette loi Siegfried de 1894, qu'est-ce qu'elle va changer ?
Alors, en fait, on a à l'Assemblée nationale, à cette époque, ça a été très mouvementé. Ça a été très très long pour faire voter cette loi déposée en 1892 exactement, si je me souviens bien. Donc il a fallu plus de 2 ans pour qu'elle soit votée définitivement, parce qu'on a des réformistes bien sûr, mais des républicains. On a des personnes qui sont anciens monarchistes, etc. Donc on n'a pas forcément, une homogénéité à l'Assemblée à cette époque. Et un certain nombre de personnes proches du patronat vont être sensibles aux conditions des ouvriers, et la gauche aussi qui est un peu présente à l'Assemblée aussi. Et donc ils vont réunir ces deux forces politiques pour faire voter cette loi de 1894. Mais cette loi de 1894, elle propose, et ce n'était pas obligatoire à l'époque, de créer dans chaque département des sociétés charitables d'habitation bon marché.
Les HBM, les ancêtres des HLM.
Voilà, c'est ça. Et donc, on voit que la mise en place de ces sociétés charitables va prendre énormément de temps, et c'est seulement en 1912, donc quelques années, quelques décennies après, que la loi Bonnevet va créer véritablement les offices publics d'HBM que l'on connaît aujourd'hui à peu près au niveau juridique, c'est à peu près la même chose.
Mais ce que l'on peut dire sur cette fin du 19e siècle avec la loi Siegfried, Emmanuel Bélanger, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience de l'importance du rôle de l'habitat comme facteur d'intégration sociale.
Oui, certainement. Mais cette loi Siegfried, hein, cela a été dit, hein, du nom d'un réformateur, du nom d'un parlementaire, mais qui a aussi eu comme fonction emblématique celle de maire du Havre, hein, qui est une ville qui a aussi connu la croissance urbaine et un renouvellement profond de sa population. Finalement, ces législateurs mesurent que l'initiative privée ne peut pas tout, voire même que son inaction est responsable également de cette paupérisation, cette fragilisation des classes populaires. Donc il faut attendre, vous avez eu raison de le souligner, il faut attendre en quelque sorte une prise de conscience et surtout une prise de conscience que l'initiative privée ne peut pas tout, mais que l'État ne peut pas non plus lui seul répondre à ses besoins de logements dignes, de logements modernes pour les classes populaires salariées, on y reviendra certainement.
Rappelez-nous, je vous laisse poursuivre.
C'est un duo en quelque sorte qui se forme, celui de l'État et sur le terrain d'opérateurs qui vont devenir ces offices publics d'HBM. À la belle époque, très peu, et surtout durant l'entre-deux-guerres finalement, très peu de constructions ou de programmes sont bâtis, à l'exception bien sûr des cités-jardins qui sont tout à fait emblématiques, que l'on retient parce qu'elles ont une forme urbaine totalement nouvelle, parce que elles sont également, je dirais, elles marquent en quelque sorte l'entrée de ces classes populaires dans des logements dignes, où l'on découvre la salle de bain, où les familles peuvent décohabiter entre parents et enfants.
Oui, parce que ces habitations à bon marché sont régies par toute une série de règles. Il faut que les loyers soient encadrés pour ces populations spécifiques, oui. Et surtout, il y a une normalisation de l'habitat.
Tout à fait. Il continue d'y avoir du contrôle social, y compris dans ce parc immobilier des collectivités territoriales, HBM ou plus tard HLM. Vous avez tout à fait raison.
Et la surface des logements est aussi contrôlée, leur salubrité, tout ça est contrôlé par des sociétés de gestion.
Vous avez des enquêtes sociales, puisque finalement cette histoire du logement social moderne, celui des HBM, on va aussi l'associer à l'avènement d'un nouveau métier important dans le social, qui est celui de l'assistante sociale, et celui également des gardiens qui vont jouer un rôle dans ce contrôle des nouveaux habitants. Mais il faut préciser que le HBM, et en particulier le HBM public, n'a jamais été destiné aux plus pauvres, aux marginaux de la ville. Celui qui est digne en quelque sorte de recevoir un logement HBM, c'est celui qui peut
travaillent.
Le payer, voilà, et qui a donc justement, qui tire ses revenus du travail. Donc ce sont très souvent des ouvriers de métier ou des petits fonctionnaires qui peuplent ces nouvelles cités HBM.
Ce qu'il faut dire à ce moment-là, Jean-Marc Stébé, c'est que la population ouvrière continue d'augmenter, alors partout en France, mais notamment en région parisienne, qui est devenue le premier centre industriel français. On a les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des cycles et de la pharmacie qui prennent de plus en plus d'importance.
Oui, effectivement, entre les deux guerres, on a une population importante ouvrière qui continue à augmenter, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'exode rural, mais aussi, n'oublions pas, et ça a été évoqué tout à l'heure par mon collègue, une migration aussi étrangère venant de Belgique, d'Allemagne, d'Italie aussi, d'Espagne, qui va venir combler les trous énormes suite au premier conflit mondial où il y a eu énormément de morts et de blessés, et certains villages étaient complètement exsangues, de population active, et donc on a été obligé de faire appel à une population étrangère, et c'est cette population étrangère qui va constituer les bataillons disons des classes ouvrières importantes, hein. Ce sont des ouvriers qui viennent de l'Italie, qui sont non qualifiés et qui trouvent du travail dans les mines, dans les usines automobiles qui se développent, etc.
Mais les logements peinent à suivre livre, Emmanuel Bélanger, puisque comme le disait Jean-Marc Stébé, la loi Siegfried a peu d'effet sur la construction de nouveaux logements, et même les lois qui suivent, la loi Strauss, puis la loi Ribot, puis la loi Bonnevet, tout cela qui vise à encourager la construction de nouveaux logements, au départ, les effets sont difficilement mesurables.
Oui, tout à fait. On estime à peu près à 300 000 HBM, locatifs ou privatifs, réalisés au cours des années 20 et 30. En Allemagne et en Angleterre, c'est plus d'un million. Donc il y a incontestablement un retard français dans la construction de grands programmes de logements sociaux pour les catégories populaires, les milieux populaires. Avec une conséquence directe, immédiate, c'est ce que l'on va appeler la crise des lotissements défectueux, que l'historienne Annie Fourcault a très bien décrite, hein, et je vous invite à lire ses recherches qui continuent de faire date aujourd'hui. Et cette crise des lotissements défectueux, imaginez-vous, ce sont 800 000 banlieusards qui ont quitté Paris ou la très proche banlieue pour en quelque sorte assouvir un rêve, celui de la petite maison, celui de devenir propriétaire. Donc ils ont pu acquérir une parcelle, y bâtir un petit pavillon, c'est très souvent de l'autoconstruction, mais un petit pavillon qui est enclavé, qui n'a pas accès au réseau de commodités urbaines, l'eau, l'électricité, et qui est à l'origine de cette grande crise urbaine qui devient une crise sociale, une crise politique, certains diront même instrumentalisée par le jeune Parti communiste français qui va, à partir de cette crise, notamment étendre sa domination, son influence pour former ce que l'on appelle commence à appeler la banlieue rouge.
Alors face à cette pénurie de logements, il y a un certain nombre de tentatives, notamment de la part d'Henri Cellier, avec le grand office des HBM, qui va construire de nombreux logements sociaux sur les anciennes fortifications, puisque l'armée va vendre, Jean-Marc Stébert, en 1919, les fortifications et la zone de servitude militaire dont on a parlé dans la première partie de cette émission.
Tout à fait. La ville de Paris. Effectivement, pour reprendre dans la droite ligne de ce que vient de dire mon collègue, Henri Cellier, le directeur de l'office public du grand département de la Seine, maire de Suresnes, qui va être à un moment donné ministre de la santé publique dans le gouvernement de Léon Blum, va être à l'initiative, lui, de la construction de, j'allais dire, de nombreux. Pour Paris, bien sûr, ça reste une goutte d'eau dans un océan, bien sûr. Il va en construire à peu près 20 000 autour de Paris. Il va construire aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des cités-jardins, qu'on appelle plutôt des banlieues-jardins, tout autour de Paris, plutôt à l'extérieur, dans la banlieue, dans les faubourgs.
C'est par exemple la campagne à Paris, ce qu'on appelle la campagne à Paris, Porte de Bagnolet
Par exemple, à Châtenay-Malabry, mais aussi à Suresnes, parce qu'il a été maire de Suresnes, à Stains, à Drancy aussi, Drancy, la cité, la banlieue jardin de tristes souvenirs à partir de 1941 qui va devenir le camp d'internement pour un certain nombre d'opposants au régime nazi. On a 15 cités jardins et puis on a ces 20 000 logements sociaux, HBM, qui vont être construits sur ce territoire des anciennes forteresses.
Penché sur la misère des travailleurs de la capitale, de ses faubourgs et de sa populeuse banlieue, Henri Cellier avait vite compris combien l'action des sociétés philanthropiques, si louable fut-elle, était insuffisante pour arracher les familles ouvrières aux taudis surpeuplés et insalubres. Voici que la loi du 23 décembre 1912 prévoit la création d'un véritable service public de l'habitation assuré par les offices publics, départementaux et communaux. Henri Cellier aperçoit aussitôt quel instrument puissant lui est fourni pour la réalisation de ses vastes projets, car, ayant grâce à son incomparable puissance de travail, tout étudié, tout lu, ayant aussi tout retenu, il se propose d'imiter les cités-jardins anglaises et de faire mieux encore. Avec le concours d'une pléiade d'excellents architectes recrutés et formés par lui, ayant appris dans les voyages où il a chaque année entraîné à connaître les réalisations urbanistes de l'Autriche, de l'Allemagne et surtout de la Hollande, Henri Cellier bâtit des cités-jardins, édifie ce qu'on a si joliment appelé un jour des usines à bonheur.
Des usines à bonheur, l'hommage de Paul Grunebaum-Balin, le président et administrateur délégué de l'Office public d'habitation du département de la Seine. L'hommage à Henri Sellier qui date de 1947. Alors on a parlé des cités-jardins et des constructions de logements sociaux, des constructions au rythme beaucoup plus faible, vous l'avez dit Emmanuel Bélanger, qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Et en même temps, ce qu'il faut souligner, qu'on a commencé à évoquer dans la première partie de cette émission, c'est la construction de cette identité, de ce sentiment d'appartenance à un collectif. Ce que l'on constate dans cet entre-deux-guerres, Emmanuel Bélanger, c'est que l'apparition de ces quartiers ouvriers entraîne l'essor de mobilisation collective.
Ah oui, tout à fait. Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec la croissance urbaine, les mouvements sociaux s'urbanisent naturellement. Et bien sûr, cette ville industrielle, elle est aussi le lieu de conflictualité, de conquête également de droits sociaux nouveaux. On parlait du Front populaire à l'instant. Ce sont ces mobilisations, en quelque sorte, de ce peuple du Paris populaire, de ces... Renaud parlait des prolos et des petites gens qui viennent peupler la banlieue parisienne et qui, en effet, vont en quelque sorte participer de ce retournement du stigmate social, celui que l'on associe à ces damnés de la terre, à ces déracinés, pour au contraire souligner qu'il y a de la dignité, qu'il y a de la fierté, et que cette dignité et cette fierté, elles, je dirais, s'érigent sur ce terreau de la ville populaire. Et bien sûr, elles sont aussi le fruit de mobilisation et bien sûr également de, je dirais, d'engagement partisan, d'abord avec le Parti Socialiste, section française de l'Internationale Ouvrière, la SFIO, qui va expérimenter dans certaines villes ouvrières ce que l'on va appeler le socialisme municipal, dont est héritier Henri Sellier, dont on vient de souligner l'apport essentiel pour l'entre-deux-guerres dans la question fondamentale du logement populaire. Et également, dès le début des années 20, la banlieue rouge, avec cette expérience du communisme municipal qui va produire incontestablement des effets durables sur ces territoires de la banlieue rouge.
Et donc c'est véritablement au lendemain des élections législatives de 1924 et municipales de 1925 que naît ce mythe de la banlieue rouge, Emmanuel Bélanger.
Oui, alors on l'associe à ce moment des législatives de 1924, où l'on retrouve dans la presse cette peur, on joue de cette peur hein, que Céline reprend également à son compte, hein, cette peur finalement de ce Paris, de ces faubourgs et ces villes populaires qui encerclent les quartiers bourgeois. Et c'est surtout en 1935 que vous avez la première grande vague rouge avec plus d'une vingtaine de grandes municipalités populaires, ouvrières, industrielles, qui se donnent pour maire des élus communistes et qui vont donner lieu à un basculement significatif qui est celui du Grand Paris. Le Grand Paris, on l'a dit tout à l'heure, c'est le département de la Seine, la plus puissante collectivité territoriale de France, qui va élire un président communiste, une première, à la faveur du Rassemblement populaire et du Front populaire, en 1936. Et cette personne, c'est Georges Marane, maire d'Ivry depuis 1925, qui va en quelque sorte incarner cette expérience du communisme municipal.
Jean-Marc Sébé, sur ces expériences de communisme municipal dans l'entre-deux-guerres.
Oui, effectivement, on peut dire, bon, il y a les partis politiques qui vont dominer cette ceinture rouge, comme on vient de le dire, mais il y a aussi tous les groupes qui sont affiliés. Il y a par exemple des groupes de scouts, des associations aussi, il ne faut pas les oublier. Parce que on a toujours dit aujourd'hui, on a tendance plutôt à dire, on n'a pas toujours dit, on a tendance à dire aujourd'hui que aujourd'hui il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de corps intermédiaires, il n'y a plus de partis politiques pour manier, disons, la société et pour créer du lien social. Et l'image, alors est-ce qu'il n'y a pas un peu de mythe derrière? Bien sûr qu'il y en a certainement, mais en tout cas, l'image de ces banlieues rouges, c'est qu'elles sont solidaires. On le voit à travers sur les crises successives des années 20 et 30 après, où certaines communes de la région parisienne accueillent des petits Lorrains ou des petits enfants du Nord dans la banlieue parisienne. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est complètement extraordinaire. On aurait plutôt un mouvement inverse, plutôt de la banlieue parisienne vers la Lorraine ou vers le Nord. Mais on voit justement ces associations, ces scouts, autour du Parti communiste, autour du Parti socialiste, etc. L'ancien Parti socialiste, c'était pas le Parti socialiste encore, mais maintenait une vie sociale forte dans cette couronne parisienne.
Et dans ce contexte intervient la Deuxième Guerre mondiale qui va évidemment rebattre les cartes puisque les destructions sont absolument considérables, et un débat oppose alors, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, oppose ceux qui veulent reconstruire à l'identique et ceux qui, à l'instar du Corbusier, veulent construire de nouveaux ensembles. C'est un débat qui va freiner la production de logements pendant près de 15 ans, Emmanuel Bélanger.
Alors, ce qui marque quand même cette période, en effet, de la reconstruction, c'est un constat. 18% du parc immobilier a été totalement et partiellement détruit. Des villes sinistrées ont disparu de la carte des communes. Et donc, il faut reconstruire, mais il faut aussi d'emblée souligner que le logement n'est pas la priorité des priorités. Il faut d'abord reconstruire les infrastructures pour relever le pays, en quelque sorte. Et toutes les, je dirais, la politique du commissariat au plan, ces grandes politiques urbaines, elles visent d'abord le dur, en quelque sorte, c'est-à-dire les infrastructures. Et donc, la crise du logement, elle va perdurer. Elle va d'autant plus perdurer que vous avez ces sinistrés, près de 4 à 5 millions de sinistrés. Vous avez également une économie qui a besoin de bras, donc un apport nouveau de migration, un troisième exode rural également qui va conduire la France à dépasser les 70% de population urbaine à la fin du cycle, à partir des années 60-70. Et donc une crise du logement, l'État s'étant en partie désengagé, que l'on va associer à un appel, bien sûr, c'est l'appel de l'abbé Pierre.
Le 1er février 1954.
Voilà, l'insurrection de Bonté, qui va incontestablement sensibiliser les consciences des gouvernants et plus encore des acteurs locaux en vue de bâtir du logement social, mais cette fois-ci à grande échelle, avec de nouveaux procédés, et c'est ce qu'on va appeler l'industrialisation du bâtiment, de la construction de logements sociaux qui vont totalement transformer une nouvelle fois ces territoires de banlieue.
Prise de conscience à la fin des années 1950 qu'il faut aller plus vite dans la construction de logements. Le Monde publie en avril 1957 une série d'articles sous le titre « Logement, notre honte » et c'est à ce moment-là que débute justement effectivement la construction de ces grands ensembles avec l'espoir de répondre à la crise du logement, Jean-Marc Stébé. Et en effet, dans une certaine mesure, cela répond à la crise.
Ben, effectivement, l'abbé Pierre, Gilbert Mathieu, comme vous venez de citer, le journaliste du Monde qui écrit « Logement, notre honte », et puis aussi le retour du général de Gaulle qui a réglé un certain nombre de défis, hein, a relevé un certain nombre de défis, le conflit algérien, la modernisation de la France, voilà. Donc, s'atteler à essayer de régler le problème de la crise du logement qui est massive quelques 15 ans après la fin de la guerre. On a reconstruit, effectivement, comme vous le disiez, à l'identique, mais les idées corbusiennes dont on vient de parler, celles de l'air, de la verdure pour tout le monde, de l'espace pour tout le monde, celles de dégager l'espace au sol, celles de le fonctionnalisme architectural et urbanistique, c'est-à-dire un espace, une fonction, etc. Tout cela, toutes les idées développées entre les deux guerres par les architectes modernes, vont se déployer après la guerre, et à cette époque, il n'y a que les architectes modernes qui ont dans leur carton des villes et des immeubles prêts à être construits, vous comprenez. Et donc c'est pour cette raison que l'on va, prendre cette voie-là, parce qu'ils auront, des soutiens parmi un certain nombre de maires, notamment le maire de Saint-Étienne, communiste, Le Corbusier va trouver des appuis auprès du clergé, etc. À cette époque.
Les constructions de HLM se multiplient à partir de la fin des années 50 et la vie de certaines familles s'en trouve transformée.
Nous habitâmes cette chambre meublée jusqu'à ce que mes parents obtiennent qu'on leur octroie une maison dans une cité ouvrière récemment construite à l'autre bout de la ville. Le mot maison correspond mal à ce dont il s'agissait. Un cube de béton collé à d'autres cubes de béton, posé de chaque côté d'une allée parallèle à d'autres allées identiques. Tous ces logements se composaient sur un seul étage d'une pièce principale et d'une chambre.
Quelle impression ça vous a fait quand vous avez appris ça?
Ah, je sais pas, une impression de pleurer.
Vous avez vu à pleurer?
Ah oui.
Vous y attendiez
plus? Je crois que c'était le plus beau jour qui pouvait m'arriver.
Au début des années 60, nous allâmes nous installer dans un immeuble HLM tout juste terminé, où ma mère, à force de démarches, avait réussi à obtenir un appartement. C'était un bel exemple de logement social inséré dans le tissu urbain, à l'intérieur même de la ville. L'appartement comprenait une salle à manger, une cuisine et enfin deux chambres, celle des parents et celle des enfants. Autre nouveauté, nous disposâmes d'une salle de bain.
T'es heureuse? T'es contente d'avoir ta chambre à toi?
Oui.
Oui.
Voilà un extrait du documentaire de Jean-Gabriel Périot, Retour à Reims, sorti en 2021, qui mêle des extraits du récit de Didier Héribon, lu par Adèle Haenel, et des archives. Alors on l'a dit, cette politique des grands ensembles va résoudre en partie la crise du logement, mais ce qui était vu comme un grand progrès social va rapidement être critiqué avec virulence. Emmanuel Bélanger, on reproche à ces grands ensembles de créer de la relégation sociale et économique.
Alors, peut-être pas tout de suite. Je crois que ce témoignage traduit une vérité. Le logement social, c'est un droit à la dignité, une reconnaissance. C'est une révolution lorsque l'on quitte son taudis pour un logement social. Et on le peut d'autant plus que la construction de logements sociaux, vous l'avez dit, hein, c'est une priorité dans les politiques urbaines. On parle d'opérations prioritaires, c'est l'âge d'or des zones urbaines en priorité, à urbaniser en priorité, qui vont devenir les grands ensembles que nous connaissons aujourd'hui. Et imaginez-vous qu'entre les années 50, 60, début des années 70, c'est près d'un million de logements sociaux qui sont réalisés dans ces nouveaux quartiers appelés les grands ensembles.
Alors, quand s'opère ce retournement?
Alors, ce retournement, il est intimement lié, me semble-t-il, à la fin du cycle de cet âge d'or de la ville industrielle. La désindustrialisation, c'est un choc majeur et on ne peut pas comprendre et saisir les enjeux contemporains de la crise des quartiers populaires sans rappeler, je dirais, ce moment qui déstructure le lien social, qui déstructure cette matrice qui faisait la force de ces villes rouges, socialistes ou communistes. Et cette matrice, elle reposait sur deux jambes. On travaillait et on habitait dans la ville. À partir du moment où on continue de travailler dans la ville, mais qu'on n'a plus de travail, là on entre dans un moment qui va s'inscrire dans la durée, celui de la paupérisation des quartiers populaires.
Un mot de conclusion, Jean-Marc Stébé, sur effectivement ce choc de la désindustrialisation qui va fragiliser encore davantage les quartiers populaires au moment où les classes moyennes quittent ces quartiers et où arrive une immigration qui est désormais plus une immigration familiale qu'une immigration de travail.
Oui, effectivement, il faut ajouter qu'il y a un enrichissement de la classe moyenne et que la classe moyenne a comme modèle le modèle américain de la maison individuelle. Et donc, elle va s'extraire avec un certain nombre de politiques publiques qui vont les aider à s'extraire du logement social à la fin des années 60, au début des années 70, pour aller dans les lotissements pavillonnaires des zones périurbaines, non plus de banlieue, donc au-delà de la ville. Et il faut bien noter que, effectivement, l'immigration à la suite de la gauche arrive au pouvoir, revient au pouvoir en 1981. Il y a le rapprochement familial, donc il y a énormément de migrants qui arrivent et qui vont trouver naturellement un logement dans le logement social et va donner une autre de couleur aux logements sociaux français.
Et comment les pouvoirs publics tentent-ils justement d'en finir avec ces poches de pauvreté? C'est ce dont on parlera demain. Un grand merci à tous les deux, Emmanuel Bélanger et Jean-Marc Stébé, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Alors, je rappelle votre ouvrage, Emmanuel Bélanger, c'était avec Marilène Baquet et Henri Rey, Banlieue populaire, territoire, société politique, aux éditions de l'Aube. Et le vôtre, Jean-Marc Stébé, c'est La France périurbaine, et c'est paru aux Presses universitaires de France. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment en partenariat avec l'Institut Veblen, votre chronique qui vous est présentée cette semaine par l'économiste Jezabel Coupet-Soubéran.
Sait-on comment financer la transition écologique? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a rendu public son sixième rapport le 4 avril 2022, consacré cette fois aux solutions permettant de limiter le réchauffement climatique. De cet énorme rapport de 2913 pages qui synthétise 18 000 papiers scientifiques par 278 autrices et auteurs, avec d'ailleurs de plus en plus de femmes, ressort un message clair. Pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degré à la fin du siècle, il va falloir réduire les émissions de 30% d'ici 2030 et atteindre un pic d'émissions avant 2025. 3 ans donc pour inverser la tendance, avec des réductions rapides, profondes et dans la plupart des cas, immédiates, des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Sans cela, le réchauffement se situera entre plus 3 et plus 5 degrés et ses conséquences, examinées dans un précédent rapport, compromettront grandement l'habitabilité de la planète. Sur le volet financier, le GIEC pointe une insuffisance. Les niveaux actuels d'investissement dans tous les secteurs et toutes les régions sont 3 à 6 fois inférieurs à ce qu'il faudrait entre 2020 et 2030 pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degré ou même plus 2 degrés. Cependant, d'après le groupe d'experts, les capitaux ne manquent pas. Ils sont juste mal alloués, mal orientés. Le GIEC a raison de pointer ce problème d'orientation des flux financiers. Banques et marchés financiers continuent de financer le fossile, le carboné, le polluant et ne sont pas alignés sur les objectifs de neutralité climatique. C'est que les engagements pris par la plupart des établissements financiers, banques et assureurs notamment, ne sont pas contraignants. Donc, leur bilan verdit un peu, mais sans véritablement débrunir. Le GIEC souligne à raison aussi le rôle des politiques publiques, car cette réorientation ne sera pas spontanée. On notera que même avec la liquidité surabondante de la dernière décennie et les taux extrêmement bas, elle n'a pas eu lieu. La mobilisation des autorités monétaires et financières est une nécessité absolue. La réorientation des flux financiers n'aura lieu que si la politique monétaire et la régulation financière verdissent résolument. Mais le GIEC élude d'une question clé. Tous les investissements nécessaires à la transition écologique seront-ils réalisables avec des capitaux privés et des financements de marché? Banques et marchés financiers ne financeront que des investissements suffisamment rentables pour être remboursés ou servir de quoi satisfaire les actionnaires. Or, les investissements nécessaires à la transition écologique peuvent être répartis en 3 catégories. Ceux rentables, comme par exemple dans l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, pour lesquels les capitaux privés ne manquent pas. Ceux dont la rentabilité est incertaine et à long terme, 30-40 ans, dans la rénovation thermique par exemple, qui ne pourront être financés que par des investisseurs très patients, comme les banques publiques de développement. Et enfin, ceux dont on a grand besoin, mais qui ne seront pas rentables, qui n'engendreront pas de retour financier. Adapter des infrastructures routières et ferroviaires pour transformer nos mobilités, développer les transports en commun, y compris en élevant les cadences des trains, protéger la biodiversité en laissant reposer des sols, en replantant des arbres, accompagner les transformations en subventionnant, compensant, formant, etc. Tout cela coûtera, sans rien rapporter financièrement. Il n'y a que la puissance publique qui pourra prendre en charge cette 3e catégorie de dépenses. Et la dette, fût-elle publique, ne sera pas le bon instrument pour cela. car il faudra un financement n'exigeant pas de remboursement. Ce n'est pas de la monnaie dette, mais de la monnaie don qu'il faudra pour réaliser ces investissements non rentables.
D'avoir écouté Entendez-vous l'écho, on se quitte avec Up and Away, le dernier titre de la chanteuse grecque Stella, dont l'album sortira au mois de juin. Demain, comment les pouvoirs publics tentent-ils d'en finir avec les poches de pauvreté? Nous en parlerons avec Renaud Epstein et Frédéric Gilly. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Take over mind, I can rest, just to keep